Chapitre 2. Adrienne Maurier aimait à passer pour une jeune fille originale. C'était son petit faible. Les grandes excentricités n'étant pas dans ses moyens, elle se rabattait sur les petites, mettait dans son costume une pointe de fantaisie et pratiquait toutes sortes de talents inédits, ramassés ci et là au hasard des rencontres. Elle jouait des castagnettes, prétendant que cet instrument était le seul qui exprimât le trouble de l'âme. Elle faisait de la menuiserie, elle avait étudié un vieux bouquin sur la chiromancie et vous disait votre bonne aventure d'un air très convaincu. Partout où elle passait, elle recueillait quelques notions hétéroclites qui lui permettaient ensuite d'étonner la galerie. Le plus glorieux jour de sa vie avait été celui où, traversant avec son frère un tir de village, elle avait d'un beau sang-froid emprunté une carabine et fait un carton, à sa propre stupéfaction, car elle n'avait tiré que deux ou trois fois dans le jardin avec le Flaubert de Jules et avait invariablement manqué la cible. En cet instant, penchée sur une vaste écuelle rouge où la motte de beurre dorée baignait dans une eau claire, cette Diane chasseresse acquérait un talent plus pacifique sous la direction de Madame Voumard. Très dolente et ennuyée depuis qu'il pleuvait, elle s'était tout à coup ranimée à la vue de la baratte. « Tiens, si japonaise à faire du beurre » s'était-elle écriée. « Si vous aviez l'obligeance de me donner une leçon, Madame Voumard, je vous montrerai en échange comment on fait les chandelles, je les fais très bien. » « Les chandelles !» avait répété Madame Voumard, un peu défiante, se demandant si l'on se moquait d'elle. « J'ai appris cela l'autre année avec une de mes amies qui partait pour le Transvaal. C'est un pays singulièrement retardé où il est bon d'être indépendant des épiciers. « Ah, laissez-moi essayer, s'il vous plaît, ça n'a pas l'air difficile du tout. » Tout en parlant, Adrienne retroussait ses manches, des manches pratiques de jeune ménagère, que de petites boules de nacre grise boutonnées jusqu'au coude et montraient de beaux bras ronds et fermes, accoutumés à toutes les besognes domestiques. « Je vais vous quérir un tablier, » dit la fermière. L'immense cuisine un peu sombre, dallée de laves blanches et polies par les souliers à gros clous, avait pour plafond la voûte surbaissée d'un cintre roman très large, dont les trois nervures reposaient sur de gros piliers trapus et réunissaient leur ogive écrasée dans une clé de voûte grossièrement sculptée en quelque semblance de tête. Tout cela était très vieux, très enfumé. Les gros piliers avaient eu leurs angles ébréchés et le naïf bourrelet de leurs chapiteaux, fort endommagé, depuis 200 ans qu'ils portaient la maison. Mais la ligne de l'arcade basse était toujours belle, d'une rustique convenance avec le lieu. Cette courbe robuste, sans grâce, encadrait bien les repas de paysans, au dos lassé qui venaient en longue file, d'un palan, s'asseoir sur les bancs de bois brunis, autour de la table couverte de vaisselle bariolée. Sous l'autre arcade pendait à un gros crochet de fer l'immense chaudière de cuivre, noire en dehors, en dedans d'un beau rose chatoyant qui ne servait plus à rien, mais qu'on laissait là comme un signe de l'importance de la ferme où l'on avait pu autrefois faire fromage. Les fromages se vendaient mal depuis quelques années et le père Voumard préférait employer le lait quotidien à engraisser des veaux pour le boucher. Dans le fond obscur, au-delà du foyer, les assiettes du dressoir miroitaient vaguement. On distinguait plus loin une rampe à jour dont les découpures projetaient sur la muraille sombre des contours indécis de cœurs et de trèfles. C'était la rampe d'un mauvais escalier noir qui grimpait là-haut à tâtons jusqu'au palier de la grange. Zoé, sans qu'on prît garde à elle, était venue s'asseoir seulette sur les marches étroites de cet escalier, un peu triste, sans doute parce qu'il pleuvait. Elle aurait voulu ressembler à Adrienne, qui avait tant d'entrain, de gaieté, et qui charmait chacun à la ronde. De sa place, la tête appuyée contre la rampe, Zoé voyait ce petit tableau, bizarrement encadré par un des trèfles découpés dans le vieux bois vermoulu. La grande écuelle rouge pleine d'eau limpide, les petits tas de beurre alignés sur une planche et deux mains agiles, rosées par la fraîcheur de l'eau qui allait et venait, le filet d'or d'un mince bracelet où 50 amulettes drôles pendaient, tintant les unes contre les autres, et deux têtes blondes de bambins admiratifs, en extase, comme ces angelots qui volaient dans les vieux tableaux. La fermière y donnait sa leçon de grand sérieux et Adrienne y allait bon jeu, bon argent, non pas un amateur, mais décidé à apprendre, et vite, et gaiement. À côté au linteau de la porte, dans la pénombre, se tenait le gros Louis, un peu curieux, un peu timide, trahissant sa présence par quelques pouffées de rire qui lui échappaient de temps à autre. Le bracelet d'Adrienne, avec ses petites figurines et ses petites médailles qui dansaient, l'attirait pouce à pouce, comme un aimant, et déjà la moitié de son corps émergé de l'ombre, quand la demoiselle, en le regardant, le fit s'y replonger. « Qu'il est grotesque !» pensait Zoé, observant son manège. « Ce n'est pas Samuel qui ferait le sauvage comme ça !» Cette pensée sembla évoquer Samuel lui-même, car il ouvrit la porte en cet instant et s'arrêta sur le seuil, un peu étonné. « Voyez, monsieur Samuel !» cria Adrienne. « Je complète mon éducation. Est-ce que je ne fais pas de beau beurre ?»« Maintenant que tout est lavé et pesé, » dit madame Vumard, « nous allons prendre les marques. Ça vous amuserait-il de faire de jolis cœurs grands comme ça et de les manger avec du pain de ménage ? Nous avons du pain tout frais d'hier. » La fermière était économe et laborieuse. Personne n'aurait pu lui en remontrer là-dessus, mais elle savait à l'occasion perdre 2 heures de bonne grâce et offrir sur ses plus belles assiettes ce qu'elle avait de meilleur pour l'honneur de son mari et de ses enfants. « Ne t'en va pas, » dit-elle à son fils, « nous prendrons les 10 heures tous ensemble. Et appelle donc Louis, qui se cache là-bas comme s'il n'avait pas de manière. Toi, Marie-Anne, cours appeler Georges et... » chuchota-t-elle à l'oreille de sa fillette. « Dis-lui qu'il aille changer de blouse, la sienne est de 4 jours. » Ainsi, cette bonne petite poule grise rassemblait autour d'elle les poussins qui lui faisaient honneur, tous beaux enfants robustes et bien éduqués, depuis ces 2 blondins qui ne lâchaient pas la jupe maternelle, jusqu'à ce grand-fils aîné encore obéissant, mais qui, derrière son front aux lignes énergiques, cachait des pensées qu'il ne disait plus à sa mère. Samuel vint saluer Adrienne, secoua la main de Jules, accomplit tout le rite des questions polies, puis regarda autour de lui. « Où donc est Zoé ? » demanda-t-il après avoir hésité un peu. « Ici !» répondit-elle du haut de son perchoir. Une sensation tiède et douce caressa son petit cœur tout scellé. Depuis un quart d'heure qu'elle était assise dans ce coin sombre, personne n'avait seulement remarqué sa disparition. Personne, sauf Samuel. « Pourquoi restez-vous là-haut » demanda-t-il, s'approchant de l'escalier. « Je ne savais où ma cousine avait disparu, » ajouta Jules. « Vous ne vous êtes pas donné trop de mal pour me chercher, » fit Zoé, qui, en fillette toute novice, laissa voir son dépit. « Mais, ma cousine, si j'avais su qu'il s'agissait d'une partie de cache-cache... » Elle haussa les épaules et ne fit pas mine de bouger. Son cousin Jules, elle l'aimait bien, mais il l'ennuyait aussi. Avec toute sa politesse, il était maladroit, il ne comprenait rien à ces choses fragiles qu'on gâte irrémédiablement si l'on met le doigt dessus. Elle attribuait cela à ce qu'il n'avait jamais affaire qu'à des locomotives et autres grosses machines qu'elle le respectait un peu de connaître si familièrement. « Venez donc voir, » reprit-il, devinant qu'elle était vexée et se répétant pour la 1000e fois peut-être depuis qu'il portait moustache, que les jeunes filles sont un grand mystère. « Venez donc voir une inscription curieuse que j'ai découverte derrière le foyer. »« Qu'est-ce que c'est que cette inscription ?» demanda Zoé en se tournant vers Samuel. Elle n'allait pas le quitter ainsi, maintenant qu'il l'avait tirée de sa cachette où elle s'ennuyait tant. Afin de montrer à son cousin qu'il fallait traiter Samuel en maître de maison, elle dit, avec une petite inclinaison de tête cérémonieuse et un regard à Jules pour souligner la leçon, « Vous permettez que nous examinions cela, Samuel ?»« Mais certainement, j'ai déchiffré cette inscription dans le temps. C'est à peine si je m'en souviens. » Sous le manteau de la cheminée, au fond du foyer, une large plaque de fer était encastrée dans la muraille. Des reliefs confus d'ornements s'y dessinaient, brouillés par la suie. Quelques coups de balai aidèrent à y distinguer des langues onduleuses et aiguës, qui étaient sans doute des flammes, et au-dessus, un être fantastique porté par les airs, un génie ou un archange, qui faisait ondoyer sur une banderole une inscription en vieux caractère gothique. « Nous trevons !» lut Zoé, debout au milieu du foyer, allongeant son cou mince et croisant ses 2 mains derrière son dos, de peur de les noircir. « Nous trevons notre vie, ou les autres, continua Jules, penché à côté d'elle et comme elle, les pieds dans les cendres et le nez sur l'inscription. Pour voir de plus près le mot suivant, ils s'inclinèrent tous deux à la même seconde et la joue de Zoé toucha celle du jeune homme. Zoé s'écarta incontinent avec un léger éclat de rire et, comme une enfant, se mit à frotter la place où la moustache de Jules avait laissé un petit chatouillement. « Mille pardons, ma cousine, » dit Jules gravement. À son avis, il eût été plus correct de la part de Zoé de rougir un peu et de marquer quelque embarras, et pour ceux qui le concernaient, il n'était qu'à moitié satisfait que l'on traitât l'attouchement de sa moustache comme une chose sans conséquence. « Ce n'est pas votre faute, » dit Zoé, « c'est la mienne. Tâchez donc de déchiffrer le dernier mot. »« Ou les autres ?»« La mort !» lut Jules, reprenant son étude, le dos plié et les deux mains tenant ses genoux. Bon, mais cela n'a pas de sens. Nous trouvons notre vie ou les autres la mort. Ah, c'est un vers. Je m'explique que cela n'est pas de sens, fit Zoé naïvement. Voyons, Samuel, interprétez-nous cette devise si vous pouvez, ajouta-t-elle en se retournant. Mais Samuel avait disparu. Au même instant, Mademoiselle Célanie entra dans la cuisine. Son regard chercha aussitôt les deux chers enfants qu'il fallait unir, et quand elle les aperçut sous la cheminée, elle tressaillit de tendre satisfaction. Ensemble, sur le foyer, c'était un présage. Elle ne prit pas garde qu'ils étaient légèrement mouchetés de suie et qu'on n'a pas coutume de se mettre sous la cheminée exprès pour prendre une attitude symbolique. Elle était douée de ce genre d'imagination, antipathique au sens commun, qui déniche partout l'allégorie. « Ma tante !» cria Zoé. « Venez nous aider, s'il vous plaît. Regardez ce que Jules a découvert. » Mademoiselle Célanie s'avança à son tour sur le foyer, puis, saisie d'une inspiration subite, elle appuya une main sur le bras de Jules, l'autre main sur le poignet de Zoé. L'allégorie, ce corset, devenait prophétique. Mademoiselle Célanie formait le lien entre ces deux jeunes existences. Le hasard voulut qu'en cet instant, Adrienne tourna la tête et vit le tableau, qui la fit rire d'abord, car il était pas mal ridicule. Elle n'apercevait que la moitié du visage de son frère, que le manteau de la cheminée coupait au-dessous des yeux. Mademoiselle Célanie, bien en face, souriait une bénédiction, les mains étendues à droite et à gauche, avec une parfaite symétrie, et Zoé, embarrassée, essayait tout doucement de dérober son bras à l'étreinte de sa tante, dont l'attitude se prolongeait au point de devenir significative. Les yeux interrogateurs d'Adrienne et ceux de la vieille demoiselle se rencontrèrent. Il y eut un rapide échange d'impressions qui fit feu comme une étincelle électrique. Mademoiselle Célanie, qui avait une intuition merveilleuse pour cette sorte de choses, devina qu'elle était comprise et retira ses mains, qu'elle croisa tranquillement devant elle, selon son habitude. Alors la tête de Jules, étonnée mais toujours correcte, fit un léger plongeon et reparut au jour. Trop poli pour s'impatienter quand une dame s'appuyait sur son bras, il avait compté néanmoins 32 secondes, qui lui avaient paru longues, et s'était demandé si on le retenait là, immobile, pour le photographier à son insu et sans tête. Aussitôt libre, Zoé, rougissant comme elle savait rougir, jusqu'aux cheveux et par-delà, tourna le dos à Jules pour qu'il ne vît pas son embarras et se précipita hors du tableau vers Adrienne. Le charme était rompu, le reste du symbole quitta la place. Comme le beurre et le pain tendre et les assiettes à fleurs étaient sur la table, il ne restait qu'à se livrer au bucolique passe-temps de faire des tartines. On félicita Adrienne sur son coup d'essai, on tâcha d'être gai, mais chacun avait sa préoccupation secrète et il se faisait dans la conversation de grands trous de silence d'où l'on sortait avec effort. Mademoiselle Célanie et Adrienne ne pouvaient s'empêcher de se regarder. Un magnétisme attirait leurs yeux qui se rencontraient toujours. Par un complot tacite, Jules avait été placé à côté de Zoé. À chaque mot qu'il se disait, la vieille demoiselle et la jeune fille échangeaient un coup d'œil qui signifiait « Avez-vous entendu ?» Et ce petit espionnage ôtait à Adrienne toute sa liberté d'esprit. Zoé sentait dans l'air quelque chose d'insolite. Quant à la fermière, elle était aussi inquiète que mécontente de l'absence de Samuel. Elle se doutait que sa peine l'avait repris et qu'il la cachait quelque part. Aussitôt que ses visiteurs eurent pris congé, elle appela Georges. « Tâche de savoir où ton frère a passé, dit-elle, et demande-lui s'il n'a donc pas faim. Je lui enverrai ses 10 heures, puisqu'il veut faire bande à part. » Adrienne avait suivi Jules dans sa chambre. « J'ai à te parler, dit-elle, j'ai eu une révélation, ajouta-t-elle en riant. » Ce qu'il ne comprenait pas, Jules n'avait pas coutume de se mettre l'esprit à l'envers pour le deviner. Il offrit posément une chaise à sa sœur, s'assit lui-même sur le rebord de la fenêtre et attendit qu'Adrienne s'expliquât. « Fais donc une question !» s'écria-t-elle avec pétulance. « Ce que j'ai à te dire est assez difficile pour que tu m'aides un peu. Si maman était ici, je ne m'en mêlerais certes pas. Au fait, je ferais peut-être mieux de ne pas m'en mêler du tout, » dit-elle par un soudain retour et en se levant. Jules suivit sa sœur vers la porte. Quand il la vit sur le point de l'ouvrir, « Ton procédé est de très mauvais goût, » dit-il. « J'ai changé d'idée. »« Oh, tu en changeras de nouveau, je te connais. De quoi s'agit-il ? » ?»« Eh bien, j'ai eu une révélation, comme je viens d'avoir l'honneur de te le dire. J'ai vu quelque chose dans le lointain avenir. » »« C'est-à-dire qu'il t'est venu une idée. Elles ne sont pas toujours mauvaises, tes idées, » fit Jules plus attentif et présentant de nouveau à Adrienne la chaise qu'elle avait quittée. « Tu es trop aimable. Admettons ta version, j'ai eu une idée. »« Concernant qui ?»« Concernant un jeune ingénieur sans le sou, qui n'est pas un grand génie, mais qui ferait son chemin, moyennant qu'on l'épaule. » »« Adrienne, dit son frère rougissant de dépit, si tu me parlais ainsi devant des étrangers ?»« Oui, mais nous sommes entre nous. Il va sans dire que devant des étrangers, j'affirmerai que ton génie égale celui de Monsieur Eiffel. » Adrienne était contente, elle l'était toujours quand elle avait mis hors des gonds ce correct jeune homme qu'elle prétendait parfois n'être pas son frère, mais un jeune bonze changé en nourrice. « Tu es insupportable, » fit-il en lui tournant le dos. « Alors je te délivre de ma présence, » dit-elle, et elle se dirigea de nouveau vers la porte. Mais cette fois, elle s'arrêta d'elle-même, la main sur la poignée. « Tu ne veux donc pas savoir mon idée ?» « Je le désire beaucoup, au contraire. »« La voici, » fit Adrienne revenant. « Vois-tu, si tu avais seulement un grain des intuitions d'une femme, tu l'aurais déjà deviné. C'est ainsi que je l'ai saisie, moi, au vol, dans l'air où elle flottait. »« Je n'ai pas tes moyens, » fit-il avec une ironie un peu lourde. « Non, mais tu en as d'autres. Tu es le type de l'excellent jeune homme. Tu inspireras confiance et, comme je te le disais, tu feras ton chemin. Mais il te faut de l'aide pour commencer. » « Je vois où tu veux en venir, » fit-il en se renversant sur sa chaise et en regardant au plafond une sorte de nébuleuse qui formait des taches d'humidité. « Nous avons ici un parent riche qui serait disposé peut-être... J'y ai songé moi-même. » « Non, interrompit Adrienne, ce n'est pas cela. Notre oncle Clovis considère Zoé comme sa fille et je suis certaine qu'il garde son bien pour elle. Mais je crois qu'il ferait quelque chose et de grand cœur pour le mari de Zoé. » Jules s'en alla lentement près de la fenêtre et resta là, les mains dans les poches, à regarder la pluie qui tombait toujours. « Sais-tu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure ? Fit-il après quelques minutes de cette contemplation. Nous nous étions baissés ensemble pour lire une vieille inscription. Alors, comme nos visages étaient rapprochés, j'ai très bien senti le bout de ma moustache lui frôler la joue, et quand je lui en ai demandé pardon, elle m'a répondu « Ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. » Je dois avouer que cette réponse m'a paru à peine convenable. « Chère petite candeur, » fit Adrienne en riant, « si tu aimais Zoé à moitié autant que je l'aime, ta demande serait déjà faite. » « Monsieur Romanel t'a pris en grande faveur. Mon oncle Clovis ne demandera qu'à faire la volonté de Zoé, en cela comme en toute autre chose, et Mademoiselle Célanie sera ton alliée. »« Tu crois ?»« J'en suis certaine. J'ai des renseignements spéciaux. Tu es bien vue. » Cela n'étonnait pas trop Jules Maurier, qui sourit d'un visage très épanoui et entoura affectueusement de son bras la taille de sa sœur. « C'est gentil à toi, dit-il, de penser à mon avenir. Zoé est charmante, je la rendrai heureuse, car si je n'ai pas de génie, j'offre au moins des garanties de caractère. »« Mais il faudra l'aimer, dit Adrienne, en se renversant un peu pour regarder son frère bien en face. « Veux-tu que je te dise, » dit-il rêveusement, la tête penchée sur le côté, « tu me révèles à moi-même. Je l'aime. Je l'aimais déjà, c'était latent. Or, une cause latente finit toujours par développer ses effets. Tu as simplement hâté l'explosion. »« Oh, l'explosion !» fit Adrienne d'un ton moitié ironique, moitié triste. Elle ne dit rien de plus et s'en retourna chez elle. Déjà, il lui venait un regret d'avoir parlé. Elle aimait cette petite Zoé d'une tendresse protectrice, la tendresse qu'ont au pensionnat les grandes pour les petites dont elles sont les mamans, et par une bizarre volte-face de sentiments, Adrienne à présent se montait contre Jules et se promettait bien d'aider Zoé à se défendre si l'ordre du jour était la défense. Il y avait là-dessous un petit remords. Dans la famille Maurier, on avait l'esprit de corps, cette puissance des familles qui n'en ont pas d'autre. Si l'on se disait entre soi des vérités, des anges même, étant huit à loger dans un étroit appartement, échangeraient parfois quelques mots vifs, l'on se soutenait contre le reste du monde, l'on s'aidait mutuellement avec ardeur, et dans chaque éventualité, l'on était habile à découvrir ce qui pouvait servir les intérêts d'un Maurier. Adrienne savait que son frère était l'un de ces médiocres chefs-d'œuvre qui ont besoin de se rehausser d'un cadre, et que, dans la famille Romanel, il serait parfaitement encadré. Au premier moment, elle n'avait vu que cela, et deux minutes après, il lui semblait qu'elle avait commis une trahison. « Ah, mais rien n'est fait !» se dit-elle pour tranquilliser sa conscience. « Si je vois que Zoé marque la moindre répugnance, si l'on essaie de lui faire violence, alors je change mes batteries, moi. Je fais feu sur Jules. » Georges Voumard, essoufflé d'avoir couru partout à la recherche de son frère, allait rentrer bredouille quand, sur le seuil, retournant une dernière fois la tête, il aperçut à la lisière du pâturage la haute taille de Samuel derrière la haie de noisetiers. Il entra dans la cuisine pour le dire à sa mère. « Samuel est là-haut dans les coudres. J'ai idée qu'il répare le mur. Voulez-vous que je lui porte ses 10 heures ?»« J'irai moi-même, » dit la fermière. « Toi, Marianne, surveille les pommes de terre. » Elle prit une corbeille couverte qu'elle appuya sur sa hanche et elle partit. Au lieu de monter par la charrière caillouteuse, coupée d'ornières, elle suivit le bord du pré, ce qu'en général elle se gardait de faire, disant que c'est péché contre le bon Dieu que de fouler l'herbe qu'il donne. Mais elle souhaitait que Samuel ne l'entendît pas venir. Comme elle ne l'apercevait plus derrière les coudres qui s'épaississaient de 2 ou 3 haies parallèles, elle en était à se demander s'il fallait tirer à gauche ou à droite, quand, se faufilant entre les sureaux, les minces alisiers, les églantiers qui s'accrochaient à sa jupe, elle tomba presque sur Samuel, assis là sur les pierres écroulées, les deux coudes sur ses genoux et la tête dans ses mains. Au bruit des broussailles froissées, il fit un bond comme pour s'enfuir, puis, voyant sa mère et ne sachant quelle contenance tenir, il ramassa sa pelle qui était là dans l'herbe épaisse. « Je t'apporte tes 10 heures, » dit la mère en enlevant le linge qui couvrait la corbeille. « Vous prenez trop de peine, » murmura-t-il. « Tu m'aurais épargné ça en restant avec nous, avec tout le monde. Quelle mouche t'a piqué de te sauver ici ?» Son ton n'était pas bien sévère et elle appuya la main sur l'épaule de son garçon. « Nos vaches ont tiré en bas le mur pour aller à mal chez Simon dans son champ de seigle. » « Regardez, je suis montée pour boucher la brèche. »« Bon, ça aurait pu attendre encore 1 heure, tu te fais trop de soucis, » dit la fermière. Cependant, elle n'insista pas. Elle étendit le linge à terre, posa dessus le pain et la tome maigre constellée de petits trous, puis elle remplit de vin un verre épais à grosse côte. « Mange, » dit-elle. Et en vraie paysanne, elle pensait, « S'il ne mange pas, il y a du mal. » Samuel prit une bouchée de pain, essaya de l'avaler en buvant une gorgée. Les yeux de sa mère étaient fixés sur lui. « Ça ne descend pas, » fit-elle, hochant la tête. Alors, jetant loin de lui le morceau de pain et le couteau, il laissa de nouveau tomber sa tête sur ses bras, dérobant son visage au regard maternel. La fermière se pencha pour atteindre le couteau qu'elle remit avec le pain dans la corbeille, sachant que l'herbe cache malignement les choses qu'on y oublie et qu'on a 1000 mots ensuite à les retrouver. « C'est donc un vrai chagrin, » dit-elle d'une voix compatissante, mais avec un petit sourire par-devers elle, car il ne lui semblait pas croyable que son beau Samuel fût bien longtemps malheureux en amour. Comme il ne répondait pas, elle reprit « Si nous savions de quoi il s'agit, nous pourrions t'aider, ton père et moi. » Il se redressa lentement, passa les deux mains sur son visage, puis se tourna vers sa mère, qui fut alarmée de le voir si pâle. « Merci, vous n'épouvez rien, » dit-il. « En es-tu sûr? Si c'est une fille de là-bas, ton père écrira à l'oncle. »« Vous n'épouvez rien, » répéta Samuel. Et tout à coup, avec l'impétueuse violence des jeunes douleurs qui n'ont pas encore appris à se contenir, la sienne déborda. Il se jeta dans l'herbe, cacha sa tête sur les genoux maternels et sanglota à se briser la poitrine. Heureux encore qu'il y a les genoux d'une mère pour y pleurer à l'aise et autour de lui les grands arbres muets qui ne répéteront point sa peine au monde railleur. « Ne pleure pas, ne pleure pas !» disait la mère penchée sur lui, d'une main lui entourant le cou et de l'autre essayant de relever cette tête brune si accablée de chagrin. « Je ne sais pas ce qui en est, puisque tu ne veux rien dire, mais tout s'arrangera, tu verras bien. Ne pleure pas, Samuel, elle serait bien difficile, celle qui ne voudrait pas de toi. »« Vous ne savez pas, vous ne savez pas !» s'écria-t-il. « N'essayez pas de me donner de l'espoir. Je ne peux pas m'empêcher de vous écouter. »« Eh, mon Dieu, c'est donc une princesse ?» cria la fermière impatientée. « Même si tu visais à une fille de messieurs, ce serait fâcheux à mon idée. » Mais enfin, ça s'est vu, une fille de messieurs prendre un paysan. Nous t'avons bien élevé et tu es beau garçon, dit-elle avec un tendre orgueil, et peut-être que ta tante te laissera du bien. En tout cas, nous avons assez sué, ton père et moi, pour avoir quelques sous à partager entre nos enfants. Tu as l'âge qu'on t'établisse. Dis un mot et on te prêtera ce qu'il faut pour acheter le chétel. Mère, interrompit Samuel en se redressant subitement. « Mettez-vous dans l'esprit qu'il n'y a pas l'ombre d'espoir pour moi. Il fallait être fou comme je l'étais pour ne pas voir cela tout de suite. Mais vous savez, on s'imagine qu'il arrivera peut-être un miracle. » Il se leva et machinalement se remit au travail, coupant la terre avec sa pelle autour d'une grosse pierre qu'il fallait arracher de son trou pour la placer sur le mur. « Ainsi, fit la mère, tu as espéré ?»« Oui, » répondit-il, baissant la tête. « Aujourd'hui, pendant 5 minutes, elle me parlait si gentiment. » Sa mère le regarda, poussa une exclamation, leva les mains et, de consternation, les laissa retomber. « Cette demoiselle de ville » cria-t-elle. « Qui ça ? » fit-il presque rudement en s'arrêtant, les deux mains nouées autour du manche de sa pelle. « Cette demoiselle Adrienne ? » ?»« Non, je me trompe, n'est-ce pas ?» « Je ne sais à quoi je pense, » dit la mère, s'efforçant de sourire. « Mais alors ?» Elle s'interrompit, n'osant pas dire l'autre nom qui lui venait à l'esprit, puis, comme si on pouvait défaire un malheur en n'en parlant pas, elle fit signe à Samuel de se taire et elle s'éloigna.